appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouzmaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui est.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. La Banque Centrale du Congo, BCC, recommande aux changeurs de monnaie, communément appelés cambistes, de travailler dans des bureaux d'échange et ils devront être encadrés par celle-ci. Cette nouvelle disposition a été annoncée avant-hier à Kinshasa par le gouverneur de la Banque Centrale du Congo. C'était lors du lancement de la campagne de sensibilisation à leur intention. Cette disposition rentre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures urgentes pour la relance de l'économie de la RDC. Comment réagissez-vous? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 09 97 06 49 69 pour vos interventions en direct. Le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nico Kalamba est à la réalisation de ce magazine, mis en onde par Héritier Sidiakala. Gilles Lungembo est à la coordination et Pierrot et la Mégie vous le présentent sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Il faut arriver à encadrer les changeurs de monnaie appelés communément cambistes et désormais la mesure a été rappelée par la Banque Centrale du Congo. Ils devaient travailler dans des bureaux d'échange et non en dessous des arbres, dans des coins de rue, au marché et partout ailleurs. Si on a besoin de pouvoir changer de monnaie, il faut retrouver ces cambistes dans des bureaux bien organisés. Cette disposition a été rappelée par la Banque Centrale du Congo. Elle vise aussi à encadrer la monnaie nationale, le franc congolais et l'identification de tous ceux par qui les différentes devises passaient entre les mains. Alors comment réagissez-vous face à cette mesure? Quelle pourrait être son efficacité dans la protection du franc congolais? Amos, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Bonjour et bienvenue Amos.
Bonjour Pierrot et Meji, bonjour à tout le monde qui est en train de suivre la radio Okapi.
On vous écoute.
Au fait, par rapport à cette question, nous tenons d'emblée d'abord à saluer la mesure qui a été prise, mais toutefois, je doute fort que cela va s'appliquer. Parce que, comme je l'ai toujours dit tantôt, si du moins les discours, les bons textes pouvaient diriger un État, ou si tous les textes que nous avons en RDC et les discours que prononcent nos autorités étaient appliqués, la RDC serait un paradis terrestre. Malheureusement, cela n'a jamais été le cas. Par rapport à ce que j'étais disant que la mesure est salutaire, d'abord, vous savez que nous qui vivons à Bukavu, dans la province de Kivu, on a toujours fustigé du fait que on raconte que tout le monde est devenu cambiste. Des enfants, des vieillards, des jeunes, tout le monde qui a même 100 francs congolais, il est cambiste à Bukavu. Ce qui n'est pas le cas sous d'autres siècles. Vous allez raconter que si vous arrivez ailleurs, vous racontez des cambistes organisés dans des maisons, et au cas où vous arrivez, vous êtes à la recherche d'échanges, on vous oriente et là vous serez servi. Mais à Bukavu, comme partout ailleurs en RDC, partout où l'on arrive, que ce soit dans des marchés, dans des rues, partout, tout le monde est cambiste. Et c'est ce qui a exposé le cambiste de Bukavu. Je tiens à vous dire, c'est là qui nous suivent, qu'à Bukavu, on a enregistré plusieurs assassinats de cambistes qui ont toujours été tués la nuit comme la journée, parce que ils ne sont pas protégés. Et tout le monde, partout où il arrive, au moment, avec la crise, avec le chômage imposé au peuple congolais, vous n'allez pas comprendre que quelqu'un s'assoit sur la route avec des milliers de francs congolais, des milliers de dollars, au moment où il y a des militaires qui vous touchent moins de $50 le mois, il y a des policiers qui vous touchent moins de $50 le mois, il y a aussi des bandits qui portent des armes. Et voilà que cela expose souvent les cambistes. Et beaucoup d'autres ont toujours été attaqués. Il y a ceux-là qui ne sont pas parvenus à mourir, mais ils ont toujours été tués. Et nous, société civile, nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avons toujours condamné cette manière de faire en RDC. Mais comme on vient de prendre cette mesure, espérons que si une fois, cette fois-ci, la mesure sera appliquée, cela va résoudre le problème qu'on a toujours vécu. J'ai à préciser que dans la province de Kivu, et plus particulièrement dans la ville de Bukavu, on est au-delà de 10 cambistes tués depuis que les sécurités a élu domicile dans les chefs des cambistes. Mais je voulais dire quoi ? J'ai dit on a catégorisé la manière dont cela va se faire en parlant de première catégorie, deuxième catégorie et la manière dont ils vont payer l'argent pour se faire enregistrer. J'ai dit il y a ceux qui vont payer 2500, d'autres 1000 dollars, d'autres 150 dollars. Cela risque aussi d'être encore un blocage sérieux parce que je ne vois plus n'importe qui donner son argent dans un pays. Nous savons comment notre pays fonctionne. Demain, on risque de dire non, ceux qui ont payé l'argent, comme c'est le cas pour les passeports biométriques, mais aussi les permis de conduire. Et comme on a dit qu'on va, on va voir comment on va le faire d'une manière biométrique. C'est là que j'ai dit, ils risquent de prendre une mesure que eux-mêmes encore vont bloquer. Moi, ce que je propose, il fallait d'abord qu'on construise des maisons pour les cambistes et qu'on admette que tout le monde y entre et puis d'autres mesures vont suivre. Mais en commençant de dire, il faut verser 2500 dollars, 1000 dollars, 150 dollars, ça risque d'être une aventure ambiguë et une façon d'escroquer encore les Congolais. Nous savons, nos autorités comment, elles cherchent de l'argent partout et dans tous les moyens possibles au détriment de la population. Voilà pourquoi moi j'ai dit, tout en saluant cette mesure, mais j'ai dit, la manière dont on veut encore appliquer la mesure risque de bloquer la situation et la situation va s'empirer davantage au détriment des cambistes, mais aussi au détriment de la population qui commençait déjà à applaudir cette mesure compte tenu de ce que nous avons connu, surtout nous qui voyons à Bukavu, l'insécurité qu'on a beaucoup fustigé de la part des cambistes.
Merci. Merci beaucoup, Amos. Vous estimez que, et d'ailleurs, vous saluez la mesure dans un autre cadre. Hein. On estime que le fait que les cambistes soient identifiés, qu'ils travaillent dans des maisons bien organisées et encadrées par la Banque centrale, il y a aussi une question des sécurité. Et ici, à Kinshasa aussi, hein, beaucoup ont été dévalisés, ils ont été tués, ils ont été attaqués par des inconnus, des hommes en armes. Alors, le fait qu'ils travaillent dans des maisons et encadrés par la Banque centrale, c'est une mesure à saluer, ça va aussi agir sur leur sécurité. Mais d'un côté, votre inquiétude, c'est par rapport aux frais qu'il faudrait payer aujourd'hui pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, à ce travail de changeur de monnaie, de 2500, de 150 à 2500, passant par 1000 dollars, s'il y a ceux qui n'ont pas de moyens, parce qu'il faut quand même catégoriser en fonction des masses d'argent qui circulent entre leurs mains. Si quelqu'un n'est pas en mesure de pouvoir payer le frais nécessaire pour avoir l'autorisation de fonctionnement, cela risque encore de les envoyer davantage dans la clandestinité et que la situation puisse perdurer. Merci beaucoup, et Amos, de nous avoir appelé de Bukavu. On retourne ici à Kinshasa. On est avec vous, Adrien. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Et merci beaucoup. Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Alors, comme mon prédécesseur Amos, je salue cette décision que nous avons suivie par l'entremise de la bouche de monsieur le gouverneur de la banque. Mais nous sommes en train de nous poser la question comment ça va se passer pratiquement, parce que nous trouvons ces changeurs de monnaie partout, dans tous les coins des rues. Bon, on va prendre une mesure les interdisant pour création des bureaux. Je pense que c'est une bonne décision, comme l'a dit d'ailleurs Amos, c'est d'abord pour la protection d'eux-mêmes, les cambistes, et aussi pour essayer de maintenir de l'ordre dans ce secteur, parce que nous avons vécu une situation récemment où le taux était en train de changer de gré à gré. C'est chacun qui voulait, dans son intérêt privé, de fixer le taux qui était en train de le faire pour ses intérêts. Pourtant, c'est un secteur qui doit être réglementé. Mais pour notre point de vue, au lieu d'abord directement de passer à l'obligation qui a été prise par la Banque centrale, nous espérions qu'il fallait d'abord les réunir en corporation. Je prends un exemple. Il y a beaucoup d'exemples qui nous inspirent. Par exemple, les motards. Parce que c'est un métier libre. Il y a les motards, il y a les gens qui appellent les clients au niveau des arrêts. Là, c'est quoi réussir au moins à identifier tous ces gens et à leur donner voir les gelées? Est-ce qu'au lieu d'abord de les regrouper en bureaux d'échange, est-ce qu'on ne pouvait pas d'abord créer une corporation de ces gens-là, les cambistes? Comme ça, on pourrait essayer de les identifier et petit à petit commencer à les regrouper. Parce que comme les montants qui ont été avancés par monsieur le gouverneur, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas avoir ces montants. Et ceux qui n'en auront pas, bon, on sera obligé de les interdire. Alors, toute la ville de Kinshasa, on aura combien de bureaux d'échange? Donc, une nouvelle matière, moi je pense qu'au lieu de prendre une mesure, il fallait toute une politique avec des mesures d'accompagnement
sortir du métier libre tel que ça se présente aujourd'hui, essayer de les encadrer jusqu'à les réunir au niveau des bureaux de change et que ça soit d'une manière structurée.
Merci beaucoup, Adrien. Rappelons que la mesure, c'est pas la première fois, c'est une disposition qui existe déjà. C'était juste, on peut dire, un rappel. Mais ce n'était pas en termes d'obligation pour le moment. C'est une campagne de sensibilisation qui a été lancée à l'intention des changeurs de monnaie pour leur dire que désormais, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent au sein de bureaux d'échange. Mais c'est une disposition qui existe, qui a été rappelée plusieurs fois. Mais pour vous, en termes de modalités d'application, vous aurez aimé qu'on les identifie. Ils ont des corporations, les changeurs de monnaie, qu'on les identifie, qu'on procède d'abord par la construction de ces bureaux d'échange en termes de coopératives. Et comme ça, ils pourront être placés pour qu'ils travaillent. Est-ce qu'ils ont la possibilité de pouvoir construire? Voilà autant de mesures qui doivent être édictées par la Banque centrale pour accompagner cette sensibilisation et cette grande mesure au-delà de la protection. Mais il y a aussi la question de contrôle de taux d'échange, le contrôle et la protection même de la monnaie nationale. Merci beaucoup, Adrien. On reste avec vous à Kinshasa, Maître Omar. Bonjour.
Bonjour Pierre Lamégé, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On sait que quand il y a eu cette campagne pour la dédollarisation de l'économie congolaise, il y a eu d'autres mesures comme l'affichage des prix en francs congolais. Est-ce que si ces cambistes arrivent aujourd'hui, ces changeurs de monnaie arrivent à être organisés dans des bureaux d'échange, ça peut quand même redonner de la valeur à monnaie nationale? Parce que, rappelons quand même au niveau du gouvernement, au niveau de la Banque centrale, l'idée c'est de conduire aussi à cette valorisation de la monnaie nationale.
Merci beaucoup, très cher Pierrot, excellentissime et divers de vous m'accorder. Nous l'avons toujours dit, nous le répétons, lorsque l'État intervient dans les domaines économiques, il intervient soit comme entrepreneur, soit comme régulateur. Entrepreneur en créant des entreprises, bien sûr, mais entrepreneur en mettant en place de mesures efficaces pour réglementer le secteur économique. C'est dans ce cadre que je félicite le gouvernement qui agit en responsabilité. Je voudrais, avant de répondre à votre épineuse question, dire et rappeler à tous que cette réglementation d'échange ne date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez l'évolution, la récente a été, n'est-ce pas, celle du 31 janvier 2001, une loi qui a été votée à l'époque, je crois, de Moïse Kabila, où on demandait à tous ces opérateurs de se constituer en commerçant. Donc, la décision que prend le gouvernement n'est pas une innovation. La loi l'a déjà déclarée. On avait seulement affaire à une certaine torpeur du gouvernement et aujourd'hui, je crois que l'autorité bancaire s'est fin révélée. Pourquoi cette décision? Vous avez demandé si ça peut, n'est-ce pas, protéger la monnaie nationale. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que si vous lisez la pratique aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que une opération bancaire, selon la loi, est avant tout une opération commerciale. Et selon la loi de 2001 que j'ai citée tantôt, on considère l'opérateur d'échange comme un commerçant à part entière. Il doit se faire enregistrer. Ce n'est pas une demande qu'on fait, c'est une obligation légale. Alors, ces soucis, c'est, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, d'abord de sécuriser ces gens qui font les opérations d'échange par rapport aux devises qu'ils contiennent, mais aussi de stabiliser les taux. Nous avons tous décrié le manque de stabilité du taux. Parmi les causes majeures, très cher Bureau, c'est aussi ce phénomène des taux parallèles qui est, n'est-ce pas, contraire aux taux fixés par la Banque centrale. Il y a aussi un problème de la contrefaçon. Vous savez, beaucoup de gens passent par ces différents opérateurs véreux pour faire circuler des faux billets. Et enfin, nous avons aussi un problème, n'est-ce pas, de la sécurité de notre monnaie nationale. Par rapport à ces raisons que j'ai avancées, je pense que la mesure est salvatrice, mais à la question de savoir si les montants élevés est très tôt, moi je pense que lorsque les problèmes sont graves, il faut aussi des solutions graves. La décision a été prise au travers d'une loi, plusieurs mesures ont été prises en ces domaines, les gens n'ont toujours pas respecté. Alors puisque l'heure est grave et que l'économie doit être redressée, je pense qu'on peut quand même donner un moratoire, un petit temps accordé à ces opérateurs de se conformer à la décision, qui d'ailleurs, je le rappelle, existait depuis très longtemps. Au lieu, n'est-ce pas, de dire non, on doit annuler, non. On maintient la décision, ils doivent se constituer un bureau d'échange, ils doivent avoir des numéros bien identifiés. Ce n'est pas la volonté du gouverneur de la banque, c'est la volonté de la loi. Je pense qu'on pourra faire œuvre utile. Mais puisque la décision doit s'adapter aux réalités économiques des opérateurs d'échange, on le sait, nous tous qui ne gagnent pas grand-chose, qu'on leur accorde ne serait-ce qu'un moratoire, le temps pour eux de se constituer ou directement de les supprimer. Voilà ma petite préoccupation, très cher Pierrot. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Omar. Vous l'avez bien dit, depuis 2001, il fallait qu'il s'est constitué en commerçant. Le bureau d'échange, faudrait-il une période, un moratoire? Mais tout cela, c'est dans l'idée non seulement de protéger les changeurs de monnaie eux-mêmes, mais il y a aussi la question du contrôle des taux d'échange et la lutte contre la contrefaçon, la sécurité de la monnaie elle-même. Mais l'État doit y aller avec des mesures d'accompagnement qui puissent permettre à ce que cette fois-ci, que ça soit réel, qu'on ne puisse pas retomber dans les erreurs du passé et que la monnaie soit toujours changée dans n'importe quel coin de rue. Merci beaucoup, Maître Omar. Sylvain, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous écoute, Sylvain.
Bien, merci. Le sujet autour de la monnaie, pour nous, Keynésiens, nous considérons la monnaie comme un bien. Et lorsque nous prenons la monnaie comme un bien, nous le considérons comme un élément essentiel de l'économie. Et quand bien même aujourd'hui, le débat est pratiquement monétariste, mais il faudrait d'abord se rendre compte que jusqu'à présent, le comportement de l'autorité de régulation des monnaies, que j'appelle ici la Banque centrale, a démontré un comportement classique avec Adam Smith. Ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait normal. Puisque lorsque vous regardez la gestion de l'économie monétaire au monde, en fait, nous sommes dans une compétition sans pareil. Et ce qui doit présider à la gouvernance du secteur monétaire doit être d'abord le souci de protéger la monnaie face à la concurrence étrangère, ou tout simplement soit à sa dégradation en termes de pouvoir d'achat. Or, là n'est pas le cas chez nous. Et pourquoi? Vous avez vu même le secteur du cambisme qui n'est pas très bien géré, qui a des conséquences sérieuses sur notre monnaie. Il faut d'abord observer quelque chose. C'est que dans notre économie monétaire, il y a la circulation de plusieurs monnaies en même moment. Et c'est un élément important d'un analyste monétariste. C'est très important avec Keynes quand nous le disons que la circulation, ou soit même l'émission d'une masse monétaire, doit nécessairement équivaloir avec la quantité de biens produits. Et ça, c'est le deuxième problème. Ça veut dire quoi? Si je peux me faire comprendre, je dis le premier problème, c'est d'abord la circulation concomitante de plusieurs monnaies dans notre économie. Ça, c'est un danger. Deuxième chose, nous n'avons pas une bonne production qui doit couvrir la frappe des masses monétaires. Troisième chose, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir donner la sécurité de la circulation de notre monnaie. Et alors, lorsque je reviens sur le débat du jour, c'est qu'il faut réguler le système d'échange dans notre économie monétaire. Je suis d'accord avec la Banque centrale. Pourquoi? C'est comme Omar vient de le dire tout de suite. En fait, là, le domaine de la monnaie, ou soit même le domaine d'échange, est un domaine commercial. Il ne faut pas qu'on puisse le trouver comme quelque chose de passe-temps. Non. Alors que jusqu'aujourd'hui chez nous, quelqu'un se réveille un petit matin, il prend 500 000 francs, il se met au cours de la route, commence à effectuer les opérations d'échange. C'est un danger. Regardez aujourd'hui le système est bien organisé au monde avec le Forex Exchange Office. Donc vous êtes accrédité par la Banque Centrale et ça permet à ce que lorsque la Banque Centrale essaie d'évaluer au quotidien, ça veut dire chaque soir, les niveaux ou soit les taux d'échange ou je vais même parler du coût d'échange puisque nous sommes dans un système de taux d'échange flottant, il faut que la Banque Centrale soit à même de vérifier le taux qui a été d'application. Je prends la date d'aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2017. Est-ce qu'à Ariwara, c'est à 1600 qu'on a échangé un dollar contre notre monnaie nationale? Est-ce qu'à Kasumbalesa, est-ce que dans la ville de Bunia, est-ce que de l'autre côté, à Parangaza, en Djougou, ça a été le même taux? Donc c'est comme ça, il faut réguler les systèmes de forex échange, ou soit le système de bureau d'échange. Il faut que chacun puisse avoir un titre d'exploitation de ces marchés monétaires. Ceci permettra, non seulement comme un auditeur l'a dit, la sécurité des acteurs eux-mêmes pour moi, c'est d'abord la sécurité de notre monnaie. Or, il faut que nous puissions nous rendre compte, c'est que dans ce domaine ici, nous devons tenir la monnaie comme un bien contre lequel il faut réserver une garantie. Et ce n'est pas le cas, je pense à mon niveau aujourd'hui, pour peut-être me résumer, c'est qu'il était très important il était très important que la Banque centrale se réveille. Et d'ailleurs, moi, je pouvais encourager la Banque centrale. Et aussi, elle peut se faire accompagner par les banques commerciales pour que désormais la sécurité de notre monnaie soit assurée. Et ceci, à double titre. D'abord, par les acteurs qui sont appelés les changeurs, avec leurs bureaux qui seront installés partout au pays. Et la deuxième chose, il faut, comme tu l'as toi-même dit, M. Gère, c'est qu'il faut une mesure d'accompagnement. Non seulement une mesure d'accompagnement monétaire, mais aussi en termes de production de biens et services dans notre économie, il faut que la Banque centrale essaie de se rassurer si, lorsqu'elle va lancer sur le marché autant de masse monétaire, il faut que la contrepartie soit faite. La dernière chose, sur les plans des marchés monétaires internationaux, il faut que la Banque centrale soit à même de connaître si quelle est la masse monétaire des dollars qui circulent dans notre économie, quelle est la masse monétaire des shillings ougandais qui circulent dans notre économie. Tout ça, la Banque centrale ne sera capable de le faire qu'à travers les statistiques qui seront produites quotidiennement par ce qu'on appelle aujourd'hui le bureau de change.
Exact. Voilà, merci beaucoup Sylvain pour toutes ces précisions. Il faut qu'on arrive, et d'ailleurs je l'ai noté tout à l'heure parce que vous l'avez dit, les devises étrangères qui circulent concomitamment dans notre pays, vous avez les dollars, vous avez l'euro, vous avez les livres sterling, le franc CFA, le shilling ougandais, vous avez le kwanza, vous avez autant de monnaies surtout dans les zones frontalières hein, où plusieurs monnaies sont utilisées. D'ailleurs on a eu un débat il y a 2 ans où il y a même des localités où il n'y a que des monnaies étrangères comme dans l'ex-province orientale qui sont utilisées. Alors voilà, toutes ces questions devaient être réglées si on arrive vraiment à identifier ces changeurs de monnaie. Ils ont les titres d'exploitation et ils permettent à la Banque centrale de pouvoir avoir une vue claire à la soirée et d'être à mesure sur la masse monétaire des devises étrangères qui circulent dans notre pays au-delà de la sécurité des changeurs de monnaie eux-mêmes. Merci beaucoup Sylvain de Bounian. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Maître Likonza. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, JR.
On vous écoute.
Bien, merci. Je crois que la loi, si elle n'est pas appliquée, on ne la fait pas respecter, elle devient obsolète. Et donc, la Banque centrale, qui revient maintenant à la charge, a laissé pourrir la loi pendant des décennies. Je parle des décennies puisque le cambisme des rues est un phénomène qui est né de l'instabilité monétaire qu'a connu le pays depuis 1993. Si on remonte même à 1990, on parlerait des bouleversements politiques qui avaient mis en cause tous les systèmes bancaires, manque de liquidités, ce qui avait poussé les opérateurs économiques à passer de maison en maison, d'entreprise en entreprise pour chercher les devises. Eh bien, cette situation a occasionné ce mouvement de tambisme des riz. Et jusqu'aujourd'hui, il y a une explosion à telle enseigne que la monnaie connaît des difficultés. Et je me demande si cette instabilité qu'on avait déplorée autrefois n'existe plus, si la Banque centrale a déjà pris des mesures pour mettre fin à l'instabilité monétaire. Mais de toute façon, comme la loi n'est pas abrogée, donc elle reste d'application. Et donc cette loi ne reconnaît pas les cambistes des rues dans les opérations d'échange. Et bien, la loi donne le pouvoir à la Banque centrale d'organiser et de superviser les marchés d'échange. Bon, tout à l'heure j'ai suivi que la Banque centrale peut procéder au regroupement de ces cambistes avant de mettre en application sa mesure. Mais si on doit regrouper les cambistes, dès lors que la loi ne reconnaît pas cette activité de cambisme et de rue, bon, par-ci par-là, il y a des organisations de cambistes, d'ailleurs enregistrées au niveau des divisions provinciales de la justice, en toute illégalité, puisque la loi sur les associations sans but lucratif ne reconnaît pas les pouvoirs au service de l'État d'enregistrer une association qui a un objet illicite. Et donc les cambistes de rue exercent leur métier en dehors de la loi. Mais c'est une situation occasionnée par l'instabilité monétaire. Et la Banque centrale a laissé cette situation continuer jusqu'aujourd'hui. Et donc, nous sommes en face de deux réalités. Il y a la loi et il y a la reconnaissance tacite des activités de cambisme et de RIP par la Banque centrale. Alors maintenant, on veut remettre de l'ordre. Moi, je pense que la Banque centrale devrait, avant toute chose, pour rejoindre celui qui a proposé le regroupement, que l'on puisse prendre une mesure ou bien un règlement ou une circulaire qui reconnaît partiellement aux cambistes les droits d'exister en se constituant en groupe. Parce qu'à partir de ce groupe, ils seront à même de se constituer en bureau d'échange. Il y a une circulaire de la Banque centrale, je crois, de 2003, qui ne reconnaît pas à une personne physique le droit de solliciter l'agrément pour devenir intermédiaire des banques ou non bancaires. Et donc, le bureau d'échange est une personne morale. Donc, à ce moment-là, les cambistes devraient se regrouper pour ouvrir ou créer un bureau d'échange qui sera agréé par la Banque centrale. Mais aussi, il y a un problème financier. La Banque centrale exige un montant pour cet agrément. On parle bon, de 3 500 $. Si on voit un cambiste congolais aujourd'hui, ceux qui sont sous des tas, des arbres, par-ci, par-là, si on appelle un cambiste pour qu'il puisse verser 3 500 $, rien que pour se faire ouvrir un bureau d'échange, je crois que c'est trop demandé à un cambiste.
Mais Maître Likonza, rappelons, Maître Likonza, parce que vous avez estimé tout à l'heure que on ne peut pas leur demander de se constituer, par exemple, aujourd'hui, d'avoir des bureaux dès lors qu'on ne le reconnaît pas. Rappelons que vous avez bien dit dans l'histoire, quand la Banque centrale n'était plus capable de soutenir le taux d'échange, en conséquence, il s'est développé un marché d'échange parallèle dont le cours s'écartait énormément du marché officiel, vous l'avez reconnu, vous l'avez dit. Mais parce que il y a eu toutes ces difficultés, c'est pourquoi le gouvernement avait pris en 2001, il avait mis en place le régime d'échange flottant qui a été adopté et qui a permis aujourd'hui de libéraliser la détention des devises. Hein. C'était en 2001. C'est ce qui a fait que la pratique avait déjà commencé après 90 et en 2001, on ne pouvait plus contrôler et la libéralisation a été acceptée. C'est que tous ceux qui continuent à pratiquer, à pouvoir changer, faire le commerce, comme le disait tout à l'heure à Maître Omar, qu'en 2001, on a demandé à tous ces gens de se transformer en commerçants, c'est que le gouvernement avait reconnu cela en adoptant le régime de taux d'échange flottant. Ça a été déjà accepté, la détention des devises a été libéralisée, mais quitte à savoir maintenant comment la Banque centrale, dans son pouvoir et son indépendance, puisse les encadrer.
Oui, c'est bien. J'ai dit, il faudrait que la Banque centrale puisse entrevoir un mécanisme pour regrouper les cambistes, puisque un seul cambiste ne sera pas à même d'ouvrir un bureau d'échange. Mm-hmm. Mais s'ils sont peut-être à 5, 10, ils seront capables de se cotiser pour faire 3 500 $ et solliciter l'agrément de la Banque centrale pour un bureau d'échange. Et pour mettre en place ces bureaux d'échange, on doit avoir un local fiable, à même de garder les coffres qui contiendra de l'argent, mmh. Et à même aussi de recevoir les clients, puisque là aussi il y a un risque. On a parlé des risques
liés à la sécurité, oui.
Exposés. Quand les clients viennent, on ne connaît pas l'identité du client, on ne connaît pas son adresse sous les tables, même s'il vient avec une fausse monnaie, avec des brûlures, des trous, et s'il part, c'est le cambiste qui perd. Mais le local des bureaux d'échange doit être fiable, sécurisé, hein, être à même de recevoir les clients. Et avant de procéder à l'opération, le client doit décliner son identité. Et donc, c'est une manière de sécuriser ces acteurs-là des monnaies.
Merci beaucoup.
La Banque centrale doit leur donner l'opportunité de le faire aussi en âme et conscience, mais tout en les sécurisant.
Merci.
Donc, ça, c'est ma position par rapport à...
Merci beaucoup, Maître Likonza. Il faut la sécurité aussi de ceux qui travaillent. Comment identifier les clients? Aujourd'hui, ça s'échange un peu en désordre, mais aussi, il faut sécuriser. Tout ça, cela doit être organisé. Les mesures doivent être prises par la Banque centrale pour accompagner cette sensibilisation. 081-890-4969 et 09-97-06-4969. Ce sont les deux numéros pour intervenir en direct dans ce magazine.
Écho de développement. Écho de développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences et les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète. C'est dans Écho de développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion le mardi à 9h15.
Ingénieur Valérie, merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres. On vous écoute. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci. Bonjour à tout le monde. Ok, Pierrot, je pense que je peux partir de l'argument de Maître Omar, que je salue en passant. Il a reconnu que la réglementation date de 2001. Vous comprendrez que la Banque centrale agit souvent en retard. Il vous souviendra que même pour les problèmes de la rétrocession des 40% des entreprises minières, il a fallu qu'elle soit critiquée de toutes parts pour qu'elle se mette en marche. 2001-2017, 16 ans durant, la Banque centrale était là. En soi, l'initiative est bonne. Elle est bonne, mais elle posera beaucoup de problèmes quant à la faisabilité. Je commence par les côtés positifs. Elle est bonne pourquoi ? Parce que elle va permettre d'abord qu'on identifie les gens. Parce que les gens ne peuvent pas manipuler la monnaie à travers la République sans pour autant qu'ils jouissent d'une certaine crédibilité. D'autant plus que la monnaie elle-même repose sur la confiance. L'initiative est encore bonne parce que puisque ces gens doivent aussi payer quand même des taxes, on ne peut pas admettre que quelqu'un qui fait des transactions du 1er janvier au 31 décembre et qu'à la fin de l'année, il ne puisse rien payer à l'État. Ce sont des manques à gagner. Mais pourquoi je dis que cela posera problème? Cela posera problème d'autant plus que la loi doit s'appliquer à travers toute la République. Je me demande, je n'ai pas appris quelque part comment la Banque centrale attend s'y engager directement par l'entremise de la direction de supervision des intermédiaires financiers, parce que c'est certainement celle-là qui doit superviser ces opérations, d'autant plus que l'échange est une opération bancaire effectuée par les banques commerciales, qui du reste est un intermédiaire financier. Alors, comment est-ce qu'ils vont les réaliser jusqu'au fin fond de la République, d'autant plus que cette loi ne doit pas seulement concerner Oshoué Jatoba, les châteaux, non. La loi doit s'appliquer partout. Comment ils vont s'y prendre? Là, c'est la Banque centrale qui est la détentrice, qui est le dépositaire de la réglementation d'échange. Lorsqu'on dit qu'ils doivent être encadrés par les bureaux d'échange, de quelle manière est-ce que ces bureaux d'échange, les bureaux que nous avons ici, vont les encadrer de quelle manière? En leur donnant de la place, en les canalisant au regard de la réglementation d'échange ou bien comment? Troisièmement, je ne pense pas que cela sera une résolution de la question du taux d'échange. Parce que il y a des gens certains de mes prédécesseurs qui ont dit, n'est-ce pas, que cela va mettre fin à des taux d'échange un peu à la multiplicité des taux d'échange. Je dis pas forcément. Parce que les taux d'échange, dans le régime où nous sommes, les régimes flottants, c'est un régime dont les taux dépendent de l'offre et de la demande de la monnaie. Alors, les taux dépendent plus de la manière dont la Banque centrale elle-même est en train de mettre la monnaie sur le marché. S'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, mais nous connaîtrons toujours ce genre de problèmes, il y aura toujours des disparités de taux et des fortes fluctuations qui auront des répercussions sur les prix des biens et des services, d'autant plus que c'est le dollar qui est admis comme monnaie en cours, ayant cours légal ici en République démocratique du Congo. Ce qui fait que, malgré l'initiative, la Banque centrale a toujours une grande responsabilité. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours dans une question de la monnaie. Et la monnaie, n'oublions pas que la monnaie a plusieurs dispositions. Il n'y a pas que la disposition juridique. Non, une monnaie a 5 dispositions. Elle a une disposition juridique, économique, psychologique, sociale. Je vais me retrouver sur une autre disposition. La monnaie, c'est d'abord l'affaire des transactions. C'est d'abord l'affaire des individus. L'État finit par y intervenir, d'autant plus que c'est bien lui qui a la charge de tout réglementer comme opération dans les pays. C'est à partir de cela que la monnaie obtient un cours légal. On dit que telle ou telle monnaie a un cours légal. Et on commence maintenant à gérer la masse monétaire à travers la politique monétaire. Mais au départ, ce sont les transactions. La preuve en est qu'il fut un moment où nous avions plusieurs monnaies dans ces pays, y compris même la monnaie interdite. c'était le million. Hein,
il y a eu des anciens, oui, des anciens Zaïre et de nouveaux Zaïre, oui.
Une autre au Katanga et une autre ici à Kinshasa. Alors que l'État avait interdit ces monnaies-là. Mais parce que les hommes avaient convenu que cela doit s'appeler monnaie, elle doit servir de moyen de paiement, de règlement de nos dettes et autres, eh bien la monnaie était utilisée. Donc la Banque centrale a toujours une responsabilité. Il y en a qui ont dit qu'il y a d'autres monnaies qui circulent ici chez nous, mais la nôtre ne circule pas ailleurs. Mais oui, c'est la preuve que notre monnaie n'est pas convertible. Mais les autres monnaies sont convertibles. Comment notre monnaie ne peut pas circuler ailleurs comme une devise étrangère? C'est parce qu'elle n'est pas convertible. Si la monnaie n'a pas de valeur, si sa valeur n'est pas sécurisée, si sa valeur est trop flottante, quelles que soient les initiatives, nous tomberons toujours à la case du départ. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Mais rappelons que la Banque centrale a demandé à ses changeurs de monnaie de travailler dans des bureaux d'échange, mais ils doivent être encadrés par la Banque centrale. Ce n'est pas qu'ils sont encadrés par des bureaux d'échange, ils doivent travailler dans des bureaux d'échange, mais encadrés par la Banque centrale. Merci beaucoup, ingénieur Alain. Merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Plusieurs personnes saluent la mesure, mais rappelons, on l'a dit même que c'est un rappel parce que ça existe depuis longtemps. Mais cette fois-ci, de quelle manière la Banque centrale pourra-t-elle aujourd'hui s'y prendre pour arriver à faire respecter cette mesure sur terrain, Alain? Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Bon, moi je crois que tout a été dit apparemment. Si nous prenons le contexte, je ne pense pas que cette mesure, pour cet ensemble de mesures, seront appliquées. Par le simple fait que c'est ça au fait la problématique même de la nature de notre structure économique. Nous sommes dominés par l'informel et la plupart des cambistes sont dans l'informel, ce qui rend difficile même à la Banque centrale de déréguler ou carrément de redresser les choses. Je prends le commerce de manière générale. La plupart des gens qui sont dans le commerce ne sont pas enregistrés. Et lorsqu'on leur fait pression pour formaliser leur structure, eh ben ils évoluent dans le souterrain, ce qui rend encore très difficile à l'État la capacité de redresser ou de les encadrer comme tel. Alors lorsque le gouvernement ou la Banque centrale prend ces genres de mesures et ne tenant pas en compte de cette réalité, eh ben je me dis ça sera très difficile. Et il y a aussi un autre élément, comme vient de le dire d'ailleurs mon prédécesseur. Dès lors qu'il y aura la circulation de deux monnaies dans un même espace, eh bien la difficulté que nous aurons, c'est qu'au niveau interne, même si on aura des bureaux d'échange, mais malheureusement il va toujours se poser des problèmes en termes de leur répartition géographique. Parce que nous allons prendre la plupart des bureaux d'échange seront localisés dans des grands centres pour des raisons sécuritaires. Et maintenant, dans le coin reculé où on fait payer aux enfants le Minerval en dollars, ça sera toujours difficile. C'est ce qui va maintenant pousser à ce que les autres cambistes puissent continuer dans leurs opérations. Il y a des bureaux d'échange qui existent. L'État, à une certaine époque, a eu à faire pression. Mais qu'est-ce qui a fait que ça ne tienne pas? C'est plutôt la manière dont l'économie est conditionnée par le dollar. Alors, si la Banque centrale voudrait faire œuvre utile, c'est plutôt faire en sorte que au niveau de l'espace, qu'il n'y ait pas la circulation de dollars, qu'on puisse plutôt mettre le bureau d'échange au niveau de frontières pour faire en sorte que l'utilisation de dollars ne soit plus au niveau de l'espace, mais au moins au niveau de l'entrée. Là, on pourrait voir le bureau d'échange s'est créé, on pourrait voir réduire sensiblement l'existence des cambistes qui jouent deux fois à la spéculation et qui ne facilitent pas à la Banque centrale de bien faire son travail. Donc moi, personnellement, je ne crois pas, quelle que soit la bonne foi de la Banque centrale, je ne vois pas la Banque centrale être en mesure de juguler une telle situation.
Merci beaucoup, Alain. Vous estimez qu'au regard de toute la situation, le besoin en termes d'offres et de la demande dans ces régimes de taux flottants, le besoin même en circulation monétaire, que ce soit au centre-ville, dans les coins les plus reculés, pour vous, il sera très difficile que ces mesures soient appliquées correctement et qu'on ait ces bureaux d'échange. pour vous, il serait mieux peut-être d'interdire carrément la circulation de d'autres devises et d'installer des bureaux d'échange au niveau des frontières pour permettre à ceux qui entrent au pays de se procurer des devises étrangères ou soit ceux qui viennent avec des devises étrangères de se procurer la monnaie locale. Mais dans les conditions où on a beaucoup d'aléas, ça sera difficile vraiment que tous ces changeurs de monnaie à travers le pays soient installés, se regroupent dans des bureaux d'échange. Joseph, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Meji, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne.
Et on vous écoute, Joseph.
En fait, j'ai appelé parce que je suis concerné par le sujet. Hein. Ça fait au moins quelques mois, je suis au chômage et j'ai trouvé un peu d'argent et vite, je me suis transformé en cambiste. Alors le sujet me tient vraiment à cœur. Mais je vais te commencer mon intervention par un petite anecdote. Hein. Ce matin, j'ai reçu les gens de la commune qui sont venus me demander pour que je puisse être enregistré, que je me procure une carte pour être connu par la corporation. Donc je comprends que c'est une structure dans laquelle, d'ailleurs, la Banque centrale qui a lancé cette opération, je la salue l'opération parce que je me réalise que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Et au moment où je suis en train d'intervenir, je vois devant moi encore d'autres agents de l'État et là je me réalise que quand on n'a pas assez d'argent pour évoluer dans ce domaine, c'est un domaine qui doit être structuré, qui doit être bien encadré. Mmh. Regarde le problème. Le problème c'est lequel? Pendant que moi je vais chercher le franc à un taux de 157, ça c'est le taux que moi j'achète le franc, et la Banque centrale, le taux indicatif, je vous suis toujours à la région capitale, le taux indicatif de la Banque centrale, quand quelqu'un vient chercher le dollar, hier c'était 1539. Et quand quelqu'un vient chercher le dollar, c'était pour hier le taux indicatif 1601. Mais imagine, mes amis qui sont à côté, eux ne mettent pas que plus, il y en a qui mettent à 1551. Et vous voyez là le taux de, il y a une spéculation. Voilà pourquoi je dis, cette mesure doit être saluée, les cambistes doivent être encadrés, et les gens qui n'ont pas qualité doivent quitter le domaine, parce que ces opérations que nous sommes en train d'effectuer, je me réalise que ce sont des opérations qui devaient être effectuées par les banques, mais également ces opérations doivent être effectuées par des bureaux d'échange qui sont reconnus et qui payent normalement leur vie. Qui paient normalement leurs taxes à l'État, parce que sinon, nous qui venons, nous déversons dans cette activité, nous sommes en train de causer préjudice aux banques qui sont agréées, mais également aux mauvais échanges qui sont reconnus. Voilà pourquoi moi, je dirais que cette mesure, elle est salutaire, elle doit être accompagnée. La Banque centrale, si elle n'est pas même capable d'imposer cette mesure à travers le pays, doit solliciter même le soutien de la police pour que les cambistes qui sont au coin des rues disparaissent. Mais je dois juste demander que cette mesure doit être on doit passer par une mesure de sensibilisation. Moi, demain, je vais quitter cette activité parce que je me réalise que je ne suis pas en accord avec l'État. Je vous ai toujours dit, je suis chrétien. Un chrétien doit travailler dans l'illégalité. On est venu ici me demander pour que le tiers reconnu que je paye 85 100. Et moi, je travaille avec $500. Je me réalise que je ne suis pas capable de faire cette activité. Cette activité doit être faite par des gens qui ont qualité. Et non seulement ces gens qui ont qualité vont travailler correctement, mais également ça va essayer un peu de stabiliser le taux, hein, parce que avec le cambis, tout le monde a son taux. Il y a même des commerçants qui se sont improvisés en cambis. Il a des fois, pour chercher des dollars, il se met au coin de riz et lui, il peut même changer un dollar à 1600. Et vous voyez un peu ce que ça fait.
Voilà, oui. Merci beaucoup, Joseph, pour votre sincérité. Vous l'avez dit, c'est le fait que vous êtes retrouvé au chômage, hein, que vous êtes brusqué là et vous êtes devenu changeur de monnaie. Et devant vous, en ce moment que vous intervenez à Lubumbashi, il y a les agents de l'État qui vous demandent 85 000 francs congolais pour pouvoir vous faire identifier et avoir les documents. Et vous souhaitez même quitter ce métier pour laisser ça à ceux qui ont des documents, ceux qui peuvent être, ceux qui peuvent payer des taxes. Merci beaucoup, Joseph. Mais là, il revient à la Banque centrale de prendre des mesures d'accompagnement pour arriver vraiment à identifier et donner les autorisations à ceux qui peuvent travailler, y compris les banques centrales. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Félicien. Merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
Ah oui, moi je dis que c'est une bonne mesure. Et tous ceux qui voyagent savent que partout où nous allons, on n'achète pas ou on n'échange pas nos devises au coin de la rue. Donc il y a toujours des bureaux d'échange officiels et organisés. Et nous aussi, nous devons être organisés. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés pour arriver aux résultats escomptés parce que il faut commencer par éliminer d'abord les causes pour que nous puissions arriver au résultat. Par exemple, les taux de change qui changent et qui est fructifié tout le temps, et ici c'est autant, là-bas c'est autant, on ne sait pas quel est le taux. C'est dit à ceux-là même qui nous dirigent. Vous avez vu sur Mobutu comment on allait et fabriquer de l'argent, et on sortait avec des cartons, on venait déposer dans la rue chez les cambistes parce qu'ils veulent avoir des devises pour leurs besoins ou pour aller mettre dans leurs comptes, tout ça. Ce sont ceux qui nous gèrent, qui font ce genre de choses. Et chaque fois, il y a toujours de nouvelles coupures sur les marchés et qui sont en train de fabriquer pour les besoins de la cause. Et de cette façon-là, comment pensez-vous qu'il n'y ait pas inflation? Et si ce système continue, donc on peut organiser les cambistes, mais le problème des taux ne sera pas résolu. De deux, il faut comprendre que une autre cause qui fera qu'on ne puisse pas réussir vraiment à organiser et que les cambistes vont entrer dans la clandestinité, ils vont toujours faire cela sans même et que les gens le sachent ou la banque centrale les contrôle, parce que ce métier-là prend de l'ampleur et à cause du chômage. Donc c'est une conséquence du taux de chômage très élevé qui fait qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui sont dans les coins en train de vendre, même s'il n'a que 200 dollars, il devient cambiste et il est en train de changer dans les coins et il cherche à gagner plus beaucoup plus pour devenir un grand. Et vous avez vu ici comment les cambistes ont été chéris et chantés par les musiciens. C'est pas parce que c'est leur argent. C'est l'argent des autorités qui venaient leur donner. Et ils gagnaient beaucoup d'argent et ils sont devenus célèbres. C'est eux qui sont en train de détruire l'économie. Et je ne sais pas s'ils vont arriver même à changer de comportement. En tout cas, moi je pense que d'abord, les taux de chômage, il faut combattre parce que vous trouvez dans tous les coins, les gens qui font la communication, les cabines téléphoniques, vous trouvez dans tous les coins, les mamans qui vendent, ils vont vous dire, c'est avec ça qu'ils envoient les enfants à l'école. Donc, quand on va réussir de ce côté-là du taux de chômage, beaucoup de choses pourront
s'améliorer.
Éliminer.
Merci.
D'elles-mêmes et peut-être les choses aussi peuvent aller de l'avant.
Merci beaucoup, Félicien. Le fait qu'il y ait une multiplicité de ces changeurs de monnaie, c'est une question aussi des survies, hein. Les gens répondent à un besoin social. Vous avez suivi les témoignages de Joseph de Lubumbashi qui s'est retrouvé là il y a quelques temps par manque d'emploi. Il s'est transformé en changeur de monnaie. Il veut d'ailleurs plus vite quitter. C'est aussi la cause. Mais il y a cette spéculation entretenue par ceux qui détiennent le pouvoir politique, ceux qui ont de l'argent, qui recourent à ces changeurs de monnaie pour pouvoir se trouver des devises. Et aussi longtemps que ces gens de comportement n'échangent pas, ça sera difficile que les mesures prises par la Banque centrale puissent porter les fruits sur terrain. Madame Joséphine, merci de nous avoir rejoints en ce moment. Vous nous appelez des États-Unis d'Amérique, de Boston. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Théo. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, je vais dire ceci. Tous les intervenants, ils ont tout parlé, ils ont tout dit. Mais j'aime un Congolais qui me dit toujours, vous savez, Madame Joséphine, ici au Congo, il y a un refus de gouverner pour encourager la mafia, pour encourager la corruption. On n'applique pas la loi, Kiro. On n'applique pas la loi au Congo. Hein? Partout, même en Zambie, là, à côté, si tu veux changer l'argent, tu dois aller à la banque. On te le dit clairement. Tu veux changer la fiole et dollar, ici, on va en Kwacha. On va changer à la banque. Je ne peux même pas critiquer le cambiste parce que les gens qui me connaissent, mon mari, c'était un cambiste. À Lubumbashi, le premier cambiste, c'était des étudiants. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'il n'y avait pas le travail. On ne crée pas. L'État chez nous doit créer l'emploi. On le dit ça. L'État crée l'emploi. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, oui. Oui, oui.
Ouais, je disais que l'État doit créer l'emploi. Si l'État crée l'emploi, on ne verra plus les mamans trimballées sur les routes, on ne verra plus les cambismes, et puis le cambisme, c'est très mauvais, parce que c'est une façon de blanchir aussi. C'est une façon de blanchir l'argent. C'est pour ça que même aujourd'hui au Congo, tu vas voir que l'argent qui circule, c'est l'argent des politiciens. Ils blanchissent ça à partir du cambisme. Ils ont l'argent que l'État ne veut pas connaître, l'argent de la corruption. Si vous allez dans un pays, vous trouvez des cambistes, c'est-à-dire que dans le pays, il y a la corruption, il y a le blanchissement d'argent. On blanchit à travers des cambistes. L'État, notre État, prend des décisions tout le temps qui ne va pas appliquer, qu'on ne distrait pas la population, que l'État crée les emplois et on ne verra plus les mamans sur le marché, on ne verra plus les cambistes. Merci beaucoup, c'est ça mon apport d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Madame Joséphine, vous l'avez dit, hein, les blanchiments d'argent, l'argent de la corruption qui passe par l'échangeur de monnaie dans les coins des rues, c'est une façon aussi de pouvoir maintenir le système. S'il y a de l'emploi aujourd'hui, si les jeunes sont occupés, il y a moyen qu'on puisse lutter contre ce phénomène. Il y en a même qui vont se retirer automatiquement. Joseph venait de le dire tout à l'heure de Lubumbashi, et Félicien est revenu sur cette question des créations d'emplois, sur les changements de mode de travail, mode de gouvernance, voilà plusieurs mesures. Mais ingénieur Valérie, tout à l'heure à Kinshasa, a beaucoup insisté sur la responsabilité de la banque centrale, que ce soit dans l'encadrement de ces changeurs de monnaie, mais aussi des mesures qui doivent être claires pour leur permettre de pouvoir se constituer, trouver des bureaux d'échange, les frais à payer aussi, cela est revenu plusieurs fois pour éviter qu'eux-mêmes ne se retrouvent en clandestinité. Voilà autant de mesures proposées dans cette émission consacrée bien sûr à cette mesure de la Banque centrale qui demande à tous les changeurs de monnaie appelés communément cambistes de pouvoir travailler dans des bureaux d'échange et ils doivent être encadrés par la Banque centrale. Ceci, c'est dans le cadre de la sensibilisation pour la mise en œuvre des mesures urgentes pour la relance de l'économie prise par le gouvernement congolais. Merci à vous tous auditeurs, vous avez été nombreux, mais on n'a pas eu l'accès aujourd'hui facilement à notre page Facebook pour pouvoir lire vos messages y déposer. On pourra peut-être le faire pour les prochaines émissions. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention et surtout votre attachement à Parole aux auditeurs et à la fréquence de la paix. Radio Okapi.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Héritier Sylvia Kala qui était à la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay. J.R. Lungembo était à la coordination et Pierrot Elamegi vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain, vendredi, pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs consacré au sport avec les Léopards de la RDC qui vont croiser la Libye dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. Quelles sont les chances aujourd'hui des Léopards de se qualifier pour la phase finale de cette grande compétition? On se retrouve demain à 11h, 4 minutes heure de Kinshasa. Merci pour votre sympathique attention, d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Au revoir.